Invisible.
Changeons notre regard sur le handicap. Invisible.
À l'Université de Poitiers, le service handicap étudiant accompagne tous les étudiants ayant une problématique de santé dans la mise en place d'aménagements d'études et d'examens. Que ces handicaps soient temporaires, permanents, visibles ou invisibles, les étudiants peuvent nous contacter. Le handicap invisible peut se définir comme quelque chose que l'on ne peut identifier au premier abord, et contrairement aux idées reçues, cela représente 80% des handicaps. À travers différents témoignages d'étudiants en situation de handicap invisible, nous vous proposons d'en découvrir un peu plus sur la réalité de leur accompagnement.
Bonjour, je m'appelle Lilia Newman, j'ai 20 ans, ça fait 3 ans que je suis à l'université. Je suis en L3 de psychologie et je suis franco-britannique. Dans mon enfance, j'ai eu beaucoup de difficultés justement avec les rapports sociaux et je pense que c'était beaucoup à cause du fait que, vu que je n'étais pas diagnostiquée, les professeurs, par exemple, me gardaient pendant la récré pour me faire répéter des dictées ou justement pour finir des évaluations et garder pendant les moments où c'était important d'avoir des interactions sociales avec mes pairs. Donc ça fait que j'ai raté beaucoup de moments et aussi forcément les autres enfants savaient pas forcément pourquoi, comprenaient pas forcément non plus, donc c'était assez difficile au niveau de relationnel parce que je ratais des moments qui auraient été cruciaux dans le développement de social et voilà, donc c'est dommage. Et aussi quelque chose qui m'a aussi freinée, c'est que, enfin, au niveau de mon diagnostic, mon orthophoniste m'a demandé si j'avais des problèmes alimentaires, des troubles alimentaires, et donc je lui expliquais que oui, depuis que j'étais petite, j'ai toujours eu du mal avec les textures et les goûts de certains aliments, et elle m'a dit que récemment, ça a été plus ou moins découvert que certaines personnes avec une dyslexie peuvent aussi avoir problèmes alimentaires au niveau des goûts et des textures. Et ça, au niveau social, ça m'a beaucoup freinée quand j'étais petite parce que tous les midis en primaire, on me gardait devant mon assiette pour attendre pendant toute la récré 2 heures pour que je finisse mon assiette alors que je la finissais jamais parce que je ne pouvais pas, ça me faisait vomir, je ne pouvais pas du tout finir de manger. Et ça aussi, c'était très difficile pendant mon enfance parce que du coup, c'est une des récrés la plus grande au niveau social avec les autres, on me l'a privée. Donc voilà. J'ai eu des aménagements pour le bac, mais je n'étais pas diagnostiquée. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai pu avoir une note de mon docteur traitant et ensuite c'est passé avec le rectorat de l'école pour décider si je pouvais bénéficier de cet aménagement étant donné que j'étais en cours de recherche de orthophoniste pour me diagnostiquer. Et vu que le temps d'attente a été très long au point où je crois que j'ai commencé à chercher en terminale et j'ai pu être diagnostiquée en deuxième année de licence. Donc, et j'ai aussi eu mes professeurs qui ont aussi écrit des notes pour dire que j'avais des réelles difficultés en orthographe et que c'était pas, enfin, qu'il y avait sûrement une hypothèse de diagnostic là. Mon arrivée à l'université s'est bien passée au début. J'appréhendais un peu parce que le niveau scolaire est différent qu'au lycée. Mais finalement, j'ai été très bien accueillie, surtout au niveau du pôle handicap. Parce que à ce moment-là, dans mon avancement de ma vie, je n'avais pas encore de diagnostic pour une situation de handicap. Et le pôle handicap m'a beaucoup aidée de ce côté-là. Fin de première année de psychologie, c'était sur le site, il me semble, là où il me disait que je pouvais peut-être avoir des aménagements pour mon handicap que je n'étais pas sûre encore que j'avais ou pas, pour les épreuves écrites, parce que au lycée, j'ai pu bénéficier d'un aménagement au niveau du bac, une tolérance orthographique et syntaxique. et un tiers-temps. Parce que du coup, maintenant, je suis diagnostiquée comme dyslexique et dysorthographique et j'ai pu bénéficier de cet aménagement-là en deuxième année et en troisième année de licence. Donc le diagnostic m'a quand même beaucoup aidée dans l'acceptation de mon handicap d'abord parce que j'ai jamais été sûre que j'avais réellement un problème ou si c'était en lien avec le fait que je suis aussi britannique. Je sais que toute mon enfance, on me disait que c'était sûrement parce que je parlais anglais à la maison, que j'avais des problèmes à l'école, que je fournissais pas assez d'efforts ou que j'étais pas assez concentrée, alors qu'en réalité, c'était pas du tout le cas. C'est parce que j'ai une dyslexie, donc voilà. Donc le fait de pouvoir mettre un nom sur les difficultés que j'ai m'a beaucoup rassurée aussi pour mon estime de soi aussi. Et aussi a pu démontrer que réellement c'était pas de ma faute si j'avais des problèmes. J'ai vu beaucoup de différences entre avant d'avoir mon aménagement et maintenant, parce que mon tiers-temps par exemple me permet de prendre le temps de lire et tous les documents par exemple qui seront dans l'évaluation. Parce que avant, j'avais pas autant de temps pour ça, et j'ai besoin de beaucoup de temps pour bien lire, pour bien prendre mot par mot. Et avant de l'aménagement, j'ai pas forcément pu prendre ce temps-là, et je loupais des informations ou je lisais un mot pas correctement. Donc ça me pénalisait beaucoup sur ma note. Et aussi au niveau des écrits, l'orthographe est quand même assez évaluée, je trouve, et donc ça me pénalise plus grâce à mes aménagements. Après ma L3, j'aimerais bien faire un master de neuropsychologie, justement, et une neuropsychologie. Donc là, cette année, je vais postuler pour un peu partout pour les masters. Et mon handicap, ça me fait pas du tout peur parce que je sais que j'aurai pareil des aménagements, de l'aide et du coup, ça me remet au même niveau que tout le monde. Et juste parce que j'ai une dyslexie ou une dysorthographie, ça veut pas dire que je ne vais pas réussir. Et aussi concernant le métier que j'aimerais faire, donc psychologue spécialisé en neuropsychologie, je sais qu'il y a beaucoup l'enjeu de... On a beaucoup d'écrits à faire, de lecture de compte rendu et... ça non plus, ça me freine pas dans ma décision parce que je sais que je peux être aidée par rapport à l'orthographe, par rapport à la reformulation. Et aussi, j'ai pas envie que ça me freine dans mes vœux de vouloir être neuropsychologue. Ce qui est important, c'est que le fait d'être bilingue ne justifie pas le fait d'avoir des problèmes à l'école. Donc, il faut absolument pas laisser certains professeurs dire que si un enfant a des difficultés, c'est à cause du fait qu'il soit bilingue. Et qu'il n'est jamais trop tard de se diagnostiquer. Du coup, moi, j'ai été diagnostiquée à l'âge de 19 ans et ça m'aide toujours. Et c'est bien aussi de pas être constamment en recherche de quel est le problème et d'enfin pouvoir dire, poser des mots sur les difficultés. Et il faut se dire que si on a des difficultés, il faut émettre qu'on a des difficultés parce que si on a le droit à un aménagement, c'est parce qu'on en a réellement besoin, c'est pour pouvoir être évalué au même niveau que tout le monde et qu'avoir un handicap, ça ne veut pas forcément dire qu'on n'est pas capable. Et justement, on peut en faire notre force, donc on peut être fier du fait qu'on arrive là où on en est, alors qu'on n'a pas forcément les mêmes facilités que tout le monde. Donc il faut, je pense qu'il faut utiliser toutes les ressources qu'on nous donne pour réussir.
Ce podcast a été réalisé par l'Université de Poitiers et sera disponible en ligne sur notre site. Un grand merci à tous les étudiants ayant participé. N'hésitez pas à nous contacter si vous en ressentez le besoin.